Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous entendez bien? Ça passe bien, d'accord. Bienvenue à toutes et à tous dans ce lieu, et le vieux temple qui a été donc donné par Napoléon à l'Église réformée de France à l'époque à Toulouse, au début du 19e siècle. Donc c'est un lieu historique. Il y avait ici, paraît-il, une faculté de théologie. Au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, quand les dominicains se sont installés pour enseigner à Toulouse avec une faculté de théologie et un certain nombre de disciplines. Donc, bienvenue dans ce lieu œcuménique et bienvenue aussi à cette table ronde. Juste avant de laisser la parole au père Rouchy qui va nous expliquer un peu le contenu de la soirée, j'en profite pour vous signaler qu'il y a une corbeille à la sortie, sur une table sur la gauche avant la porte du fond, pour les dons, les offrandes, la collecte que vous accepterez de donner pour payer les frais d'utilisation de ce temple. Merci beaucoup d'avance.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, cette rencontre se situe dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème cette année est « Crois-tu cela ?» qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11, au moment où Jésus n'a pas encore réanimé Lazare, puisque, comme vous savez, Lazare, comme disaient les enfants, est remort, alors que Jésus est ressuscité. Mais cette résurrection, ce retour à la vie terrestre annonce la résurrection du Christ. Et la résurrection du Christ, comme vous savez, c'est le pilier de la foi. Donc le thème, c'est « Crois-tu cela ?» Thème préparé, comme chaque année, par une communauté à travers le monde. Et cette année, c'est la communauté de Bose. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'Enzo Bianchi, qui est le fondateur, je crois, le premier abbé de ce monastère écuménique qui comprend des hommes et des femmes. Donc, Bose s'est situé dans le nord de l'Italie. Et c'est cette communauté qui a préparé pour le monde entier donc le thème de la semaine de l'unité des chrétiens. Nous avons décidé en comité œcuménique de suivre ce thème et de profiter aussi du 1700e anniversaire du Concile de Nicée pour mettre aussi cet anniversaire dans le thème. Donc, nous avons commencé hier à la paroisse Saint-Vincent de Paul par la fête de l'unité, plutôt centrée sur la prière. Et ce soir, très modestement, c'est un petit peu sur la formation, si l'on peut dire. Donc, voilà comment nous allons procéder. Ce concile est extrêmement important, d'abord parce qu'il est notre bien commun à tous les chrétiens. Alors, c'est malheureusement après qu'on va commencer à se séparer. On l'avait fait un petit peu avant aussi. Mais c'est donc le socle commun des professions de foi, le credo que nous récitons dans toutes les églises, dans l'Église catholique pratiquement tous les dimanches, un peu enrichi par le texte du Concile de Constantinople. Voilà, donc c'est une réalité liturgique de beaucoup de nos églises, plus ou moins fréquentes, et c'est aussi la profession de foi essentielle, qui est aussi le contenu des baptêmes. Voilà, donc c'est ce bien commun que nous avons voulu honorer ce soir. Donc vous voyez, nous sommes trois intervenants. Donc, nous sommes partagés le travail avec le pasteur Minot. Je vais vous dire un peu comment les choses se sont passées, l'importance pour la foi chrétienne de ce texte et surtout d'un mot qui est au cœur de ce texte et qui nous dit que Jésus est autant Dieu que le Père. Il est consubstantiel au Père. Alors, je vais essayer de vous expliquer, sans trop m'étendre, comment on a fait ce mot, pourquoi on a fait ce mot, et quelle est l'importance de ce mot pour la foi, et surtout pour la foi dans le salut. Jésus nous sauve parce qu'il est égal en divinité au Père. Donc ce terme a été soigneusement discuté, choisi, l'objet de beaucoup de controverses, et c'est, comme nous allons le voir, ce terme va de la politique à la politique. Je m'explique. L'origine politique, c'est donc la décision de Constantin le Grand, en 311, de notre ère bien sûr, de choisir le christianisme comme religion autorisée. Et Théodose, en 390, je crois, 381, va décider que c'est la religion de l'Empire. C'est donc le pouvoir politique qui a beaucoup insisté pour que les évêques du monde entier de l'époque, c'est-à-dire autour de la Méditerranée, se réunissent pour régler le problème grave de la prédication d'un curé de Bocalis, toujours faire attention avec les curés, qui disait des choses inexactes et qui mettait en cause le cœur de la foi. Je vais essayer de vous décrire un petit peu tout cela. Donc on a choisi ce mot consubstantiel que nous retrouvons dans donc le credo, dans le « Je crois en Dieu ». Et ce terme va être officiel. Il va paraître ce que l'on pourrait appeler, en transposant un petit peu, au journal officiel de l'Empire. Il n'y avait pas de journal officiel de l'Empire, mais c'est la même chose. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'étaient pas d'accord, étaient priés de se taire ou bien d'être exilés en dehors de l'Empire ou à l'autre bout de l'Empire. Donc ce texte est important parce qu'il va nous aider la foi à progresser. D'abord dans la connaissance de Dieu, dans le salut, bien sûr, qu'il nous apporte, mais aussi en nous permettant d'entrer un peu plus en contact avec Dieu, en discernant mieux ce qui est commun en Dieu et ce qui est divers en Dieu. Et on va trouver des mots, après s'être beaucoup battu, pour désigner ce qui est commun en Dieu, puisque nous sommes monothéistes, et ce qui peut nommer la diversité en Dieu. Alors je vous donne déjà le résultat, c'est la notion de personne. La personne que l'on va là aussi élaborer difficilement en concept, et cette notion de personne va d'abord définir les trois de la Trinité. Et puis au fur et à mesure que la civilisation et la culture vont se répandre, cela va passer aussi dans la culture profane pour désigner les personnes humaines. Alors ça, ce sera la partie que le pasteur Minot a bien voulu choisir, donc, pour nous expliquer comment cette notion va, au cours des siècles, en particulier dans l'Occident chrétien, investir la civilisation et affirmer l'inviolabilité de la personne humaine et toutes les conséquences juridiques que le fait que tous les humains et toutes les humaines, bien sûr, et même les humains qui ne sont pas encore nés, sont dignes de respect, d'attention. Et bien avant qu'en 1789, en 1793, on dise que tous les humains naissent libres et égaux en droit. Eh bien, ils sont libres et égaux, mais pas seulement en droit, mais aussi au nom de la nature. Voilà un peu le parcours que nous vous proposons. Et le père Tanios Pteich, que tout le monde ne connaît peut-être pas, qui est donc le curé responsable de la mission maronite à Toulouse. Les maronites sont donc des chrétiens orientaux qui sont toujours restés fidèles à Rome. Alors, il va nous l'expliquer. Lorsque Saint-Louis est arrivé au Liban, il a été soufflé de voir que ce n'étaient pas des chrétiens séparés, comme la plupart des autres qu'il rencontrait. Voilà. Et donc, le père Tanios va nous dire comment le concile de Nicée a été reçu donc dans l'église maronite et aussi certainement les problèmes qui se sont posés après, puisque un certain nombre d'églises se sont séparées principalement après le concile numéro 4, celui de Chalcédoine en 451. Mais l'église maronite est toujours restée, donc, en ayant sa propre liturgie et sa propre spiritualité, en communion, disons, avec ce que avant la séparation, on appelait la grande église, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les communautés chrétiennes. Après cela, nous vous proposerons des petits papiers pour que vous puissiez écrire vos questions. Donc, vous aurez un petit moment pour le faire. Et ces questions nous seront données, nous nous les répartirons. Voilà, et ce qui n'empêchera pas peut-être à la toute fin de la rencontre d'avoir peut-être une ou deux questions, ou même trois, orales. Voilà, alors si vous voulez, nous commençons ce parcours. Nous allons essayer de ne pas dépasser demi-heure chacun et nous allons demander au Père Tanios d'être un peu plus court aussi. Voilà, donc comment les choses se sont passées dans cette histoire qui nous est commune. Le premier point, si vous voulez, ce sera très rapidement ce que l'on peut appeler la préhistoire du dogme de la Trinité, des dogmes qui concernent le Christ. Alors, quand on entend dogme, on a des boutons qui poussent. C'est dommage, parce que le mot dogme, comme tous les mots, est un mot neutre. Et malheureusement, on reçoit les mots non pas selon leur sens, mais selon la réaction émotionnelle qu'ils provoquent quand on l'entend. Donc, ça fait qu'on ne peut plus communiquer parce qu'il n'y a plus d'objectivité. Le dogme, c'est tout simplement un éclairage donné sur un aspect assez important de la foi, non pas pour figer la foi, et ni pour la bloquer, ni pour la scléroser, mais au contraire pour bâtir des jalons pour qu'on puisse aller plus loin au fur et à mesure du questionnement que les personnes à qui on va annoncer l'évangile vont donner, et cela va permettre au dogme donc d'évoluer, puisque c'est une notion évolutive et non pas pour fermer les choses. Donc le dogme de Nicée vient à la suite d'une longue préhistoire qui serait très intéressante de développer, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Donc déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons un certain nombre de passages qui nous présentent, disons, des embryons de ce qui est devenu la foi en Dieu un et trine, dont on expliquera ce mot, et qui est le Christ, comment le Christ nous sauve. Et comment nous aussi, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes des personnes, avec tous les droits qui en découlent. Donc dans l'Ancien Testament, nous trouvons déjà quelques passages, alors un peu en vrac et rapidement. Dans l'Exode chapitre 3, le nom de Dieu, le nom divin, que d'ailleurs on ne prononce pas et qui reste mystérieux chez les Juifs, est révélé à Moïse. Dans la Genèse au chapitre 18, nous voyons notre ancêtre dans la foi, Abraham, qui est visité par trois anges. Trois. Pourquoi trois? Dans le livre des Proverbes, on apprend qu'il y a une sagesse, que cette sagesse est là avant la création, qu'elle est ravie de jouer en présence de Dieu et qu'elle se régale d'être au contact et en présence des humains. Dans la Genèse au chapitre 1, nous apprenons qu'il y a un Dieu, que ce Dieu parle, et puis avant toute chose qu'il y a, alors les traductions sont sujettes à beaucoup d'interprétations, un vent de Dieu qui plane sur l'abîme, ou l'esprit de Dieu, alors en hébreu c'est pareil, ruach, ça peut vouloir dire vent ou esprit. Donc vous avez le droit de traduire et de comprendre les deux interprétations. Donc ça fait déjà trois, ce d'où vient la parole, celui d'où vient la parole et l'esprit qui l'accompagne. Le Nouveau Testament va en rajouter avec les passages célèbres dans Colossiens, le début de l'Épître aux Hébreux, l'Évangile de Jean, qui nous dit qu'au commencement était la parole, que la parole était tournée vers Dieu, que la parole était Dieu, voilà, et que tous ceux qui ne sont nés ni de la chair, ni de volonté d'homme, ni d'une action charnelle, sont nés de Dieu, sont nés de l'Esprit de Dieu. Donc, à partir de ce donné scripturaire, c'est-à-dire de l'Écriture, qui serait intéressant de détailler, vont, au fur et à mesure des premières générations chrétiennes, en particulier des réponses de Paul aux questions que les communautés qu'il avait fondées lui posaient, au fur et à mesure qu'il y avait des problèmes dans les communautés, et puis au fur et à mesure que les évangiles ont pris le relais en développant, selon plusieurs qu'on pourrait appeler école théologique et spirituelle, donc cette révélation qui commence à être écrite sous la forme donc du Nouveau Testament, et puis vont petit à petit se structurer des réflexions un peu plus élaborées, et il va y avoir aussi ce que l'on appelle les hérésies. Alors, l'hérésie, aéréo, ça veut dire prendre, choisir quoi ? Choisir un aspect de la vérité générale au détriment des autres aspects. C'est l'hypertrophie d'un aspect exact de la vérité. Alors, il y en a eu un certain nombre au début, on ne va pas aller trop profond. Il y a d'abord la gnose, si vous voulez, c'est le phénomène sectaire. Venez chez nous, vous serez sauvés, parce que chez les autres, on ne l'est pas. Donc, si vous voulez être sauvés, il faut faire telle pratique, réciter telle formule, etc. Saint-Irénée, évêque de Lyon, à la fin du IIe siècle, va en faire la nomenclature, et ça va suffire pour aider les gens à ne pas sombrer, justement, dans l'erreur. Il y aura ensuite, en particulier en Afrique du Nord, la crise donatiste. Nous fêtons aujourd'hui Saint-Sébastien, qui a été martyrisé en 250, comme Saint-Saturnin, qui n'est pas loin d'ici, Saint-Cernin. Et lors de ces persécutions, il y avait des héros qui étaient martyrs, il y avait des héros qui refusaient d'abjurer la foi, et puis il y avait des personnes comme vous et moi, surtout comme moi, qui ne sont pas très courageux et qui craquaient devant les persécutions. Les lapsis, ceux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'il faut faire de ceux qui ont craqué devant les persécutions ? Alors, il y a toujours des purs partout qui disent il faut les exclure, c'est fini, ils sont perdus. Et puis, la grande Église, c'est-à-dire quand même la quasi-totalité des responsables ecclésiaux ont dit, mais nous sommes tous pécheurs, et donc il faut les réintégrer. Et un certain Donat, donc en Afrique du Nord, plutôt en Tunisie, Algérie, dit non, il faut pas les réintégrer. Donc ça va faire aussi une autre hérésie. Un moine, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention au curé, il faut faire attention aussi au moine, Pélage, qui disait, mais on peut très bien être vertueux, il n'y a pas de problème, c'est de la propre force de l'homme que l'on peut finalement être sauvé. Ben non, parce que comme dirait Paul, ça vide de son effet la croix du Christ. Donc ces hérésies se sont mises à foisonner, et puis, donc Dioclétien, au début du IVe siècle, empereur de Rome, a considéré que l'Empire était trop grand pour être dirigé par un seul personnage. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait même pas de télégramme, donc il y avait bien les voies romaines avec la poste impériale qui essayait de transporter les nouvelles et les ordres un peu rapidement, mais ça mettait quand même du temps. Pour arriver de Rome à Dora Europos sur l'Euphrate, il fallait un certain temps et le problème était déjà dépassé. Donc Dioclétien a dit, voilà, on va diviser l'Empire en quatre. Donc on va partir de l'Estonie, etc., qui n'était pas dans l'Empire. Mais on va arriver donc jusqu'à la mer Noire. Et on va traverser l'actuelle Yougoslavie et on va traverser l'actuelle Libye. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un seul État en Libye. Mais ça, c'est une autre question. Et on va faire aussi, donc, dans chacune de ces deux parties de l'Empire, qu'on va appeler des diocèses. C'est d'abord un terme administratif qui va ensuite désigner les diocèses. On va avoir deux Augustes et deux Césars. On va diviser le pouvoir en quatre pour qu'on puisse être apte à régler les problèmes et surtout à résister aux barbares qui commencent à grignoter l'Empire de façon très sérieuse. Donc il y a quatre tétrarques, le pouvoir divisé en quatre, quatre personnes. Et à l'époque qui nous intéresse, on va constater une chose qui est toujours valable. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est-à-dire que ce système n'a marché que quelques décennies parce que chacun des quatre voulait être le seul. Donc il y a M. Constantin, que nous connaissons mieux, avec sa maman Hélène. Il y a Licinius, qui est son beau-frère. Et il y a Maximin Daya et Maxence. Et Constantin, qui est très malin, va petit à petit capter le pouvoir à son seul profit, en particulier en s'emparant de Rome à la bataille du Ponte Milvio, le pont Milvius, qui existe encore, et il aurait vaincu donc Licinius, je crois, en ayant vu dans le ciel une croix avec le labarum, c'est-à-dire peu importe, une sorte de linge, et surtout écrit « In hoc signo vinces », dans ce signe, tu vaincras. Alors, cette conversion au christianisme avait été préparée par la croyance plus ou moins monothéiste au soleil invaincu. C'est pour ça qu'on fête Noël le 25 décembre, qui était le solstice d'hiver. Et on va aussi donc influencer par Hélène, bien décider que désormais on pourra ne pas être païen et être quand même citoyen. Donc c'est pas la religion d'État, mais le christianisme est permis donc après 3 siècles de persécution. Pourquoi ? Eh bien parce que Constantin constate, comme l'a fait Napoléon, comme le fait actuellement Poutine, que pour un État assez totalitaire, il faut quelque chose qui ressemble à une idéologie unitive. Et cette idéologie unitive, eh bien, Constantin va trouver que, finalement, le christianisme, ce serait pas mal. La vieille religion gréco-romaine est à bout de souffle, ça fonctionne plus, personne n'y croit plus, c'est sclérosé. Et Constantin se dit, voilà une religion moderne, nouvelle, intelligente, pluriculturelle, avec un dogme peut-être un peu compliqué, enfin il n'est pas encore élaboré complètement. Mais voilà, je vais choisir le christianisme pour unir mon empire. Et puis, il y a 2 écoles théologiques principales, en Orient évidemment, parce qu'en Occident on n'est pas très futé en théologie à l'époque, l'école d'Antioche en Syrie, je crois que c'est actuellement Latakié, le fief de Assad, et l'école d'Alexandrie, donc en Égypte, prestigieuse école, c'est un peu le chien et le chat, très complémentaire. À Antioche, on est farouchement monothéiste. Et ça va définir une zone culturelle, on n'en sera pas étonné, qui va donner naissance au prophète de l'islam, qui sera lui aussi farouchement monothéiste. À Alexandrie, on est habitué à la pluralité des dieux, mais il n'y a que les sots qui croient qu'il y a plusieurs dieux. En fait, toute cette diversité de dieux représente des aspects divers de l'unique divinité. Donc si vous allez en Égypte, vous irez à Saqqara, et dans la pyramide de Ti, je crois, vous verrez Dieu au singulier. Donc ces écoles vont s'opposer, chacune va avoir une façon d'interpréter la Bible, je passe sur les détails, mais surtout on va être plus sensible à Antioche sur la morale, en particulier la morale sociale, avec donc Saint Jean Chrysostome et d'autres pasteurs qui seront très impressionnés et qui insisteront beaucoup sur cette dimension de la foi, dimension sociale, de justice, etc. À Alexandrie, on est plutôt dans le mysticisme et dans la façon allégorique d'interpréter la Bible, alors que, bon, on est sérieux quand même, hein, il y a Origène qui va faire les exemples, c'est-à-dire on va prendre toutes les versions qui existent, on va les mettre en hébreu, pour les ignares qui ne savent pas lire l'hébreu, on va mettre l'hébreu en caractère grec, et puis on va mettre la version des Septante en grec, et plusieurs versions, dont Théodotion, etc. Bon, vous trouverez ça dans toutes les histoires de l'Église. Et alors qu'à Antioche, eh bien, on sera un petit peu moins, disons, phosphorescent, hein, dans l'interprétation de la Bible. Et Constantin ayant choisi donc, le christianisme pour unifier son empire, voilà qu'à Alexandrie, il y a du trouble à l'ordre public. Parce que le curé de Bocalis, paroisse de l'archidiocèse, n'est-ce pas, d'Alexandrie, dont l'évêque s'appelle Alexandre, n'a pas beaucoup d'imagination, dont Arius, qui a fait ses études à l'école d'Antioche, même s'il est prêtre à Alexandrie, va phosphorer sur notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Verbe de Dieu. Et il va dire, c'est merveilleux le Christ. Et il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'école théologique d'Antioche, il y a un seul Dieu. Donc, quelles que soient les merveilles que l'on puisse attribuer à Jésus, il ne peut pas être Dieu. C'est un super homme, c'est peut-être un super ange. Enfin, mais Dieu, il n'y en a qu'un. La ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et voilà, c'est déjà la perspective de cela. Bon, quelqu'un qui n'est pas dans la droite ligne de la foi, mais ça fait beaucoup de troubles à Alexandrie. Les grandes dames vont écouter volontiers la prédication d'Arius, et Arius ne se contente pas de parler au beau quartier. Arius fait des chansons populaires, comme Michel Sardou, où il va mettre en vers que les gens vont retenir, et les dockers du port, les serviteurs des bains publics, les boulangers, quand vous allez chercher un service public, n'est-ce pas, au lieu de vous donner votre serviette ou votre pain, eh bien, vont prendre position pour l'engendrer ou l'inengendrer. Et oui, les masses populaires sont agitées par des questions théologiques. Et puis, il y a des moines aussi qui sont dans les deux camps et qui font des manifs, et des manifs qui tournent mal. Alors, les services secrets de l'Empire vont avertir Sa Majesté Constantin que le christianisme, ça commence à pas bien fonctionner. Alors, Constantin envoie Ossius, qui est un Espagnol, figurez-vous, évêque de Cordoue, qui va voir un peu sur le terrain ce qui se passe. Et Ossius revient, alors il met le temps, évidemment, il n'y a pas de Boeing, il revient à Constantinople, et il dit à Constantin, ça va très mal, il faut faire quelque chose. Parce que ce bonhomme nous casse l'unité de l'Empire. Et donc Constantin décide, en 325, donc il y a exactement 1700 ans, de convoquer un concile universel, œcuménique, donc il va réunir les évêques de l'ensemble du monde habité, alors il n'y en a que 318, on a quelques signatures, et ils vont donc, convoqués par l'empereur, se réunir sous son autorité, et ils vont rédiger un texte qui sera une loi d'empire et qui va définir la foi chrétienne. On va faire un texte à partir de quoi? Eh bien, alors le voilà, il est trop petit, j'aurais dû faire un PowerPoint, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, en grec et en latin, si ça vous intéresse, j'ai quelques feuilles, vous pourrez les emporter. C'est en français au verso, ne vous en faites pas. Donc, dans ce texte, on va reprendre le symbole de l'église, paraît-il, de Césarée, maritime, en Palestine, et que l'on demande aux baptisés de réciter. C'est donc le symbole de foi baptismal. Nous croyons donc en Dieu, alors ce serait intéressant de le commenter, mais on n'a pas le temps. Et on va donc aller au cœur du problème avec la production d'un terme qui a un défaut aux yeux des intégristes de l'époque, il n'est pas biblique. L'homo ousios. Homo, ça veut dire le même, pas semblable, même, identique. Et osios, c'est un adjectif dérivé sur le participe présent du verbe être, c'est-à-dire ce qui est vraiment la réalité profonde d'une chose ou d'une personne. Pour dire quoi ? Pour dire que Jésus est autant Dieu que le Père. C'est le Verbe de Dieu incarné, mais c'est le Verbe de Dieu, et donc il est Dieu autant que le Père. Et puis, donc nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible, tout le monde est d'accord, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, monogénès, le seul à être engendré comme ça. Et puis on va asséner un certain nombre de vérités, il est engendré, ce n'est pas une créature. On va prendre des exemples, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, dont tous les manifestants d'Alexandrie qui disent qu'il est créé, ils ont tort, et tous ceux qui disent qu'il est engendré, ils ont raison. Voilà, donc vous voyez les conséquences politiques aussi. Alors, parmi ces évêques, la plupart sont d'accord, les évêques occidentaux, il n'y en a pas beaucoup, ils ne comprennent pas grand-chose au problème, et il y a des évêques sincères qui adhèrent à la foi de Nicée. Et puis il y a Eusèbe de Nicomédie. Eusèbe de Nicomédie, c'est le prélat de cour par excellence, qui est évêque de Nicomédie parce que Constantinople n'est pas encore fini, le ciment n'est pas encore sec, et donc Constantin reste encore à Nicomédie, dont Eusèbe est l'évêque. Eusèbe de Nicomédie, par flatterie et par courtisanerie, va signer le texte de Nicée, mais après, il n'aura de cesse de turlupiner Constantin pour finalement donner raison aux opposants au concile de Nicée, tous ces gens de l'école théologique d'Antioche pour qui, de toute manière, il n'y a qu'un seul Dieu et donc tout ce qui a l'air de contrer la divinité exclusive du Père sont dans l'erreur. Et Eusèbe de Nicomédie sera celui qui baptisera Constantin sur son lit de mort. Ce qui fait qu'après cet éclatant succès de Nicée, eh bien, il y aura un certain nombre de problèmes qui vont rester, en particulier le Saint-Esprit. Alors quand vous reverrez le texte, on dit « Nous croyons au Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, il a engendré, non pas créé, etc. » et à l'Esprit-Saint. Et tous les opposants de Nicée, après la mort de Constantin, quand même, vont relever la tête et on va remettre en cause l'homo ousios, le fameux consubstantiel. Alors, il y a des théologiens qui vont s'en mêler, ça va être à peu près bien, sauf s'ils sont de l'école d'Antioche. Et il va y avoir aussi un certain nombre d'empereurs qui vont mettre le nez là-dedans et qui, souvent, n'ont pas beaucoup de théologie. Donc, ils vont traficouiller ce pauvre homo ousios en disant, écoutez, tout ça c'est trop philosophique, dites, il est homoios, il est semblable au Père, ça suffira, c'est pas la peine de l'épinailler, ça fait des divisions. Et d'autres un petit peu plus subtils vont mettre un iota, un i, entre homo et ousios. Il est homo iousios, d'une substance semblable, mais et non, il est homo ousios, il est consubstantiel au Père. Alors il va y avoir des empereurs orthodoxes qui sont dans la vérité de la foi de Nicée et d'autres qui seront un petit peu hérétiques sur les bords. Et il va falloir donc de nouveaux conciles. Et malheureusement, après chaque concile, eh bien ça va faire des divisions. Alors très rapidement, après Nicée 325, il y a Constantinople en 381 sous le grand empereur Théodose, celui qui a décrété donc que le christianisme serait religion d'État. Là, on affirme la divinité de l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Bon. Et Charlemagne, après, au 8e siècle, enfin, c'est pas lui, c'est ses théologiens, va ajouter qu'il procède du Père et du Fils. Il sera la querelle du Filioque, dont on en parlera peut-être d'autres fois si ça vous intéresse. C'est très simple. Dans la Trinité, le Père est l'unique origine du Fils, puisqu'il faut un seul principe dans la Trinité, une seule origine, mais par rapport à nous, l'Esprit-Saint nous est donné par Jésus. Donc, alors, on va se mettre d'accord en 1438 à Florence pour dire il procède du Père par le Fils pour les Grecs et pour nous et pour celle du Père et du Fils. Voilà, donc ces problèmes sont résolus, vous voyez, 1438 après dans Nicée, c'est 325. Donc, ensuite, à Éphèse, en 431, alors Éphèse c'est un peu plus compliqué qu'un concile, mais ça a été validé par celui de 451 après, donc c'est bon, pour dire que Marie est la mère d'un fils qui est Dieu. Alors là aussi, ça va faire des bisbilles. Les mémés de Constantinople aiment bien dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Elles ne disent pas exactement Mère de Dieu. Elles vont dire engendreresse de Dieu dans l'ordre humain. C'est-à-dire, elle va fournir une humanité pleine et entière au Verbe de Dieu incarné. Elle est pour rien dans le fait qu'il soit Dieu, mais elle est la mère d'un fils qui est déjà Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, il y en a qui ne seront pas d'accord, ils sont exilés. Et puis, en 451, à Kadıköy, en Turquie, actuellement Calcédoine, il va y avoir alors un magnifique concile qui va définir le problème qui se pose lorsqu'un président de la République n'est pas de la même couleur politique que son premier ministre, la cohabitation. Comment se passe, à l'intérieur de l'unique personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la relation entre la divinité et l'humanité, sans confusion et sans mélange, lui c'est lui, moi c'est moi, comme disait Fabius de Mitterrand, sans confusion et sans séparation. C'est-à-dire que Jésus n'est pas une espèce de shaker dans lequel l'huile et l'eau se mélangent plus ou moins, mais il est complètement Dieu et complètement homme, et l'homme et Dieu communiquent parfaitement dans son unique personne, le Verbe de Dieu incarné. Voilà le produit, le résultat des courses qui s'achèveront dogmatiquement en Constantinople III en 683. Voilà comment ce dogme s'est fait. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de dire le Père et le Fils et l'Esprit, c'est trois quoi? C'est pas trois dieux puisqu'il n'y en a qu'un. C'est pas trois entités, c'est pas trois machines, trois trucs ou trois choses. C'est trois quoi? Alors, sur le marché des mots à l'époque, on a plusieurs candidats, n'est-ce pas? Plusieurs mots qui sont proposés. Alors, ce serait assez intéressant de vous montrer le ping-pong théologique entre les latins qui ne connaissent pas le grec et les grecs qui méprisent les termes des latins. Donc, on va avoir le choix entre plusieurs mots, personne, nature, hein, mais il y a plusieurs façons de dire personne et nature. Alors, nous, évidemment, on est après le produit fini, on comprend à peu près. Donc, on a un mot qui veut dire fusis, c'est-à-dire ce qui pousse. Dieu, il ne pousse pas. Bon, natura, c'est un participe futur, c'est-à-dire que Dieu serait un futurible. Non, il est là. Alors bref, résultat des courses, on va choisir en grec le mot ousia, au mot ousios, vous rappelez, ousia, dérivé du participe présent féminin du verbe être, hein, qui va désigner ce qui est commun aux trois de la Trinité, et ça va donner en latin natura et en français nature, hein, pour dire qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule nature divine, participer et pas partager, participer à égalité entre le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont trois quoi. Alors, on va remettre une pièce dans le jukebox. Qu'est-ce qu'on va choisir pour dire la personne? Alors, on ne sait pas encore que c'est personne, ça viendra après. Alors, on va dire, bon, il y a substantia, mais substantia, ça veut pour, en latin, ça veut dire ousia pour les Grecs. Donc ça va pas. Il y a persona. Alors persona, c'est le masque de théâtre que l'on met pour reconnaître le personnage. Ça va pas parce que c'est l'apparence persona. Mais par contre, ça va bien pour les Grecs et qui vont choisir le mot hypostasis. Mais hypostasis en grec, ça veut dire substance en latin. Et substance, ça équivaut à ousia en grec. Alors, voyez un peu le ping-pong. Un brave évêque de Poitiers, Hilaire, qui a été exilé en Orient, est très content d'être exilé parce qu'il va enfin comprendre la subtilité de la chose. Et quand il va revenir d'exil en Orient, il va briefer tous les évêques gaulois qui comprendront qu'il y a une seule nature et trois quoi. eh bien, trois personnes, trois hypostases, hein, hypostasis. Donc, hypostasis en grec, persona en latin, persona en français, ousia en grec, natura en latin et nature en français. Voilà le résultat des courses. Alors, je vous laisse imaginez au cours des quatre siècles, là, tous les débats, tous les reculs, toutes les avancées. Et nous nous trouvons donc avec ces magnifiques termes. Alors, quel est l'enjeu? Il est simple. Si le Christ n'est pas Dieu, on n'est pas sauvé. C'est donc une question pastorale, une question existentielle. Ce n'est pas un problème théologique comme ça, tout à fait oiseux. Non, il s'agit de la vie ou de la mort éternelle de chaque personne humaine. Donc si le Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas donner le salut. Parce que l'homme tout seul ne peut pas se sauver. Alors il essaie de se sauver de deux manières. L'art est un antidestin, avait dit Malraux. Il se survit dans l'œuvre d'art, mais bon, il n'y est plus. Ou il se survit dans sa descendance, mais ce n'est plus tout à fait lui. Il y a quelques gènes qui demeurent, les gènes récessifs en particulier, mais le mort est mort, la morte est morte, et les enfants sont les enfants, et ne sont pas les parents. Donc Dieu seul peut donner le salut, et il faut que notre Seigneur Jésus-Christ soit Dieu, sinon il n'est pas sauveur. Alors c'est bien joli, mais il y a une autre nécessité, c'est que Dieu ne veut pas sauver l'homme malgré lui. Il faut que le salut soit accueilli. Et il faut donc que notre Seigneur Jésus-Christ soit complètement humain, avec tout ce qu'est l'humain, l'esprit, le corps, etc. Et tout ce que toutes les anthropologies de toutes les cultures vont discerner dans l'humain. Donc il y a du travail pour expliquer l'homo ousios aux Chinois, aux Coréens, surtout aux Coréens du Nord d'ailleurs. Là, c'est assez passionnant. Et il faut que donc l'humanité et la divinité en lui communiquent parfaitement pour que, en particulier sur la croix, le feu de Dieu fasse disparaître la glace du péché, que la force vitale de Dieu vienne infuser justement cette possibilité à la précarité humaine. Et donc il faut qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme, et que l'humanité et la divinité communiquent parfaitement. Et puis que son incarnation lui permette d'être en lien avec chaque personne humaine. Car ce terme théologique va passer au Ve siècle dans la culture philosophique. Jusque-là, on disait que l'homme et que l'humain étaient une substance individuée de la nature rationnelle. C'est la théologie du saucisson. Vous avez un saucisson coupé en tranches, mais pour reconstituer le saucisson, il faut mettre toutes les tranches bout à bout. Eh bien non, chaque tranche est le saucisson. C'est dire que chaque personne, que l'humanité n'est pas un rassemblement numérique, mais que chaque personne humaine est autant humaine que les autres, comme les trois de la Trinité sont autant divins les uns que les autres. Et nous allons avoir cette magnifique notion de personne. Et en m'excusant d'avoir été un peu long, je vais passer la parole donc au pasteur Minot qui va nous dire comment cette notion a donné ces belles réalités que sont les droits de l'homme, la démocratie et la laïcité. Parce que le mot laïcité est fait sur laos qui désigne le peuple dans une action cultuelle. Le peuple qui processionne. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas aussi. Merci beaucoup au père Rouchy pour cet exposé. Qui le maîtrise parfaitement, mais merci beaucoup, c'est très éclairant. Jusque dans les détails des mots, c'est impressionnant. Il me revient de la charge de parler un peu de la suite, comment cette notion de personne a été reçue dans la pensée après Nicée jusqu'à l'époque moderne et peut-être même après, jusqu'à l'époque contemporaine. Je me permets de citer Bernard Sespouet, qui dit « Les mots de la foi changent de sens en raison de l'histoire humaine, de l'esprit et du langage, et nous devons en tenir compte. » Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le mot « personne », par exemple, ou d'autres mots, nous l'avons entendu déjà dans l'exposé du Père Rouchier, les mots évoluent, les sens, les significations des mots évoluent. Et là, je pense à ce que dit le pasteur Michel Boutier, qui est exégète du Nouveau Testament. Dans son commentaire à la lettre aux Éphésiens, il dit, je cite, « L'anthropologie chrétienne est en genèse et sa quête n'aboutira qu'au grand jour. » Il fait en fait référence à la lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul au chapitre 13, à la fin de l'hymne à l'amour, où l'apôtre Paul dit « Aujourd'hui je ne connais pas tout, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Donc c'est ce grand vers lequel nous tendons, où nous connaîtrons clairement le sens des mots, le mot « substance », le mot « ousios »,« ousia », le mot « hypostasis », le mot « personne ». Un jour, le grand jour viendra, où nous connaîtrons vraiment les vrais sens de ces mots-là. Pour l'instant, nous utilisons des mots approximatifs, qui sont des mots humains, qui sont des mots limités. Et notamment le sens du mot « personne » a évolué dès son apparition dans le monde grec puis latin et ne cesse d'évoluer. Et donc dans mon exposé, j'aimerais juste retenir deux principaux sens du mot « personne », à savoir l'acception, le sens substantiel, substantialiste, d'un côté, et le sens relationnel de l'autre côté. Et donc, comment ces deux sens ont pu être reçus, comment ces deux sens ont évolué depuis le concile de Nicée jusqu'à l'époque contemporaine. Je vous propose une approche en deux périodes. Tout d'abord, la période allant du Concile de Nicée jusqu'à l'époque moderne. Et ensuite, la deuxième période concerne l'époque contemporaine. Donc, la première période. Et dans cette première période, une bonne partie de la pensée théologique et philosophique a forgé une notion plutôt substantialiste de la personne. Et nous voyons donc là vraiment les conséquences, comme l'a bien expliqué le Père Rouchy, les conséquences, l'impact des différents conciles qui se sont succédés jusqu'au 5e siècle. Qui ont mis en place une notion résumée par une phrase de Boès au 4e siècle. La personne est une substance individuelle de nature rationnelle. La personne est une substance individuelle de nature rationnelle. Et on retrouve pratiquement jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à maintenant encore, on retrouve cette définition, notamment on la retrouve chez Thomas. À la racine de la liberté, dit Thomas, à la racine de la conscience, de la relation à Dieu et de l'intersubjectivité, nous découvrons qu'il y a un soi qui se saisit et se comporte comme soi parce qu'il est constitué comme tel par sa nature rationnelle. Et cela signifie donc que cette personne, que ce soi, est un être substantiel. Et je cite donc la Somme théologique de Thomas qui dit « La personne est l'individu doué d'intelligence qui est capable de se porter librement par son agir vers la fin qu'il saisit par son intelligence. » Et donc on voit bien chez Thomas la notion d'intelligence, la notion de liberté s'appuie, trouve le racisme dans la substance. La personne est une substance, et c'est pour cette raison que cette personne est douée d'intelligence, donc de rationalité, et douée de liberté. On retrouve également très rapidement, on parcourt les siècles jusqu'à Descartes. René Descartes traduit le sens substantialiste de la personne par son cogito ergo sum. Cogito ergo sum, c'est-à-dire que je pense ou je doute, ça dépend comment on traduit la pensée de Descartes, je pense donc je suis. C'est par le fait que la personne soit douée d'intelligence, douée de raison, est capable de penser que cette personne est une personne à part entière. Et donc Descartes reste fidèle en faisant de la personne un individu qui pense, qui réfléchit. Il reste fidèle à la définition boétienne, la définition de Boès. Je vous la rappelle. Substance individuelle de nature rationnelle. Et donc, du côté de la théologie chrétienne protestante, nous sommes donc au XVIe siècle. Je me permets juste de citer l'exemple de Martin Luther, le premier des réformateurs protestants, mais qui sera suivi par les autres réformateurs sur les questions du dogme de la Trinité, de la consubstantialité. Martin Luther a pu être accusé de monophysisme, c'est-à-dire que voilà, il y a qu'une seule, c'est comme l'a expliqué le père Rouchy, il y a qu'une seule, comment on dit, monophysisme. Le monophysisme.
Oui, le monophysisme, c'est le fait de considérer que le Christ n'est que Dieu. Et que son humanité n'est qu'une apparence. Il y aura aussi donc ceux qui seront docètes, hein, c'est un peu la même chose. Le corps de Christ sur la croix n'est qu'une apparence, ce que je retrouve mot pour mot dans le Coran d'ailleurs.
Merci, oui, oui. Voilà, je me réfère facilement aux spécialistes. Et donc, il est vrai que la doctrine de Luther. Il lui est arrivé de parler de ce qu'on appelle la communication des idiomes, c'est-à-dire il y a en lui donc la nature divine, dans sa personne il y a la nature divine d'un côté, la nature humaine de l'autre côté, normalement il y a fusion et il n'y a pas fusion, il n'y a pas séparation, voilà, des deux natures. Luther essaie de réinterpréter cette double nature du Christ en parlant de la communication des idiomes. Alors, il y a une manière imagée d'expliquer la position, la doctrine de Luther qui dit que les deux natures du Christ sont comme le café et le lait. Le café et le lait, quand ils ne sont pas mélangés, on voit bien qu'il y a le café d'un côté, le lait de l'autre côté. Quand ils sont bien mélangés dans une tasse, on ne voit plus la différence entre le café et le lait. Et donc la communication des idiomes est un peu comme ça chez Luther. Mais c'est une manière très imagée qui est un peu caricaturale, mais en tout cas, on ne rentre pas dans les détails des atomes en parlant du café au lait chez Luther. Donc il a pu être accusé d'hérésie par ses interlocuteurs au XVIe siècle. Toutefois, on peut trouver chez Luther des textes très très clairs, notamment une confession de foi qu'il a rédigée à la fin de son livre qui s'appelle « Le traité sur la scène du Christ ». Vous voyez, la Sainte Cène et l'Eucharistie étaient vraiment au cœur du débat entre les théologiens à l'apparition de la réforme protestante au XVIe siècle. Et à la fin de ce traité sur la scène du Christ, il affirme sa foi. Et je cite, « Je crois à l'article suprême sur la majesté divine, Père, Fils et Esprit Saint, trois personnes différentes,
un authentique, unique et vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, comme cela a été tenu fermement jusqu'ici, aussi bien par l'Église romaine que par les Églises chrétiennes de tout l'univers. Je crois que le Fils seul est devenu vrai homme, conçu de l'Esprit Saint, sans collaboration humaine, par la pure et sainte Vierge Marie, qui était sa vraie mère naturelle et en même temps mère, la mère de Dieu. Et puis, dans un commentaire que j'ai trouvé aussi, un commentaire qu'il a fait du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, les versets 5 à 11, vous savez, ce texte un peu de confession de foi peut sans doute hériter de l'Église primitive. Luther conclut en disant, pour que cela puisse arriver, aboutir, pour que la mission du Christ puisse réussir, il faut de la divinité en lui. C'est exactement ce que vient de nous expliquer le Père Rouchier. Il a fallu que le Christ soit vrai Dieu et vrai homme pour que nous puissions être sauvés. Et donc, je continue encore, il y a la découverte de l'héliocentrisme par Copernic qui marque l'époque moderne. Vous savez, la Terre n'est pas le centre du monde. Mais, si la Terre n'est pas le centre du monde, qu'en est-il de l'être humain ? Comment accepter que l'être humain ne soit pas au centre ? Et cela a fait surgir le besoin humain de se poser comme sujet. C'est-à-dire, tout doit passer par son « je ». Je pense. Je réfléchis. Je suis. Voilà donc l'arrivée de cette importance de la personne comme sujet, avec ce décentrement de la terre et ce recentrement sur la personne humaine. Mais il faut attendre Kant, donc le 18e siècle jusqu'au début du 19e siècle. Il faut attendre Kant pour vraiment tirer les conséquences d'une révolution qu'on peut appeler copernicienne, avec ce recentrement sur le sujet. Et donc une révolution aussi par rapport à la définition de la personne. Et Kant, donc, c'est vraiment la charnière entre l'époque moderne et l'époque contemporaine. Je vais essayer de présenter assez rapidement un peu dans cette période charnière, l'évolution de la notion de personne. On redécouvre l'histoire du mot personne, enfin l'étymologie du mot personne, aussi bien dans le monde grec que dans le monde latin antique. Et les historiens disent que en fait, c'est le mot prosopon qui était à l'origine, qui était présent dans le monde grec bien avant l'apparition du mot persona dans le monde latin. Et par exemple, chez Aristote, donc on est déjà au IVe siècle, mais ça retrace un peu l'histoire et la signification de ce mot personne, prosopon, dans le monde grec. Je cite Aristote. La classification des espèces semble retenir la face ou le visage, c'est-à-dire le prosopon, pour désigner l'espèce humaine. Et donc, on voit par là que, en fait, le visage ou la face de l'être humain était différent des animaux. Les animaux, la plupart des animaux, marchaient à quatre pattes alors que l'être humain était debout. Et sa figure, de ce fait, a une face qui est tournée vers son vis-à-vis, vers son interlocuteur, et tourner le dos aux autres personnes ou aux autres créatures qui sont derrière lui. Et en même temps, ce visage avait une orientation avec donc le crâne, enfin le haut du crâne vers le haut, et le menton vers le bas. Et donc, cette configuration de la face humaine, du visage humain, fait penser à sa dimension spirituelle, sa dimension qui le fait vraiment attirer vers le haut, vers l'esprit, vers Dieu. Et donc, de ce fait, il y avait donc l'apparition, la mise en place d'une distinction entre la personne physique, la personne humaine, et les autres créatures, notamment les animaux. Et cette classification donc a permis de faire apparaître, de laisser apparaître la notion de personne dans le monde grec. Et c'est seulement par la suite, vous voyez dans le tableau, que le mot persona dans le monde latin, et qui signifiait donc masque de théâtre, qui signifiait personnage, a pu influencer le monde grec avec l'interprétation, la traduction du mot prosopon, visage à l'origine, est devenu aussi le masque ou le personnage. Et ensuite, petit à petit, dans les deux mondes, la personne humaine est apparue, et puis la personne grammaticale avec le je et le tu. Et dans cette apparition de la personne grammaticale, le je, le tu, on a déjà l'intersubjectivité. Je te parle, tu es mon enfant, je suis ton père, et l'enfant dit « oui, tu es mon père ». Vous voyez cette relation entre la personne et son père, notamment son Dieu, considéré comme un père, qui se met en place, en tout cas qui se mettra en place à partir de cette notion grammaticale de la personne dans le monde chrétien. Il y a aussi petit à petit, autant à partir du concile de Nicée et des différents conciles qui vont suivre, cette conception substantialiste qui prédomine, autant petit à petit va se mettre en place dans l'époque contemporaine une autre signification du mot personne. Qui est une conception, une définition plutôt relationnelle. Je vous l'ai déjà un petit peu annoncé, là, avec la relation je-tu. Au deuxième siècle, on trouve chez Apollonius d'Iscole cette distinction entre le je et le tu, donc la mise en place de la personne grammaticale. Et l'invention du sujet de droit va apparaître au XVIIe siècle avec l'intersubjectivité juridique. On voit ça par exemple chez Leibniz, et ensuite chez Kant, la notion de relation. Je vais peut-être le détailler un petit peu plus après, mais en tout cas, il y a cette idée de relation chez Kant qui se met en place. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la révolution copernicienne de la notion de personne. Avec chez les disciples de Kant, j'ai relevé Fichte et Hegel qui introduisent la notion de reconnaissance. C'est-à-dire, tu es une personne parce que je reconnais que tu es une personne. Je suis une personne parce que tu me reconnais comme une personne. Cette idée de reconnaissance chez Fichte et Hegel. Et ensuite, l'idée de dialogue interpersonnel avec Martin Buber qui reprend la relation intersubjective entre le je et le tu. Et Martin Buber, donc, qui commente l'Ancien Testament et qui voit cette intersubjectivité entre Dieu et l'être humain. Et donc, je terminerai par Ricoeur, mais on retrouve aussi cette idée de personne relationnelle chez Francis Jacques, par exemple. Alors, chez Kant, donc, dans sa pleine maturité, hein, à l'origine, il n'était pas tout à fait encore dans cette idée de relation, de personne comme relation, mais vers les années 1780, Kant distingue entre la personne relationnelle et la personne substantielle. La personne relationnelle est cette personne qui est une personne morale, une personne qui est sujet de ses actes, qui est imputable de châtiment, de punition, de peine par la justice, qui est donc un sujet libre. Et ça, c'est la personne relationnelle. Alors que la personne substantielle, telle que je la trouve en tout cas dans les écrits de Kant, la personne substantielle est encore celle de Descartes qui dit « je pense donc je suis ». C'est-à-dire que chez Descartes, il y a cette idée comme quoi la personne est douée de raison, est douée d'intelligence, et c'est par cette intelligence que la personne va se découvrir comme une personne. L'individu va dire « je pense et donc je suis ». Et donc l'individu va se découvrir comme personne de cette manière, comme substance personnelle de cette manière. Mais Kant va découvrir et va dire que cette personne substantielle, cette personne qui est simplement conscient d'elle-même, cette conscience de soi psychologique ne suffit pas pour que l'individu soit pleinement une personne. Il faut que l'individu soit une personne morale, c'est-à-dire une personne libre et responsable. Et donc, cette liberté, cette responsabilité, il va l'acquérir par la découverte de soi, par le respect de soi, mais ce respect de soi, eh bien, l'individu va le découvrir par la relation à l'autre, par l'intersubjectivité, le fait que l'autre, par exemple ses parents, respectent en tant qu'enfant aimé des parents. Et donc cet amour, cette relation d'amour entre l'autre et moi va me faire découvrir le respect de moi, le respect de soi, de ma personne. Et donc... et Kant va dire que la substantialité ne saurait être un fondement suffisant de la personnalité. Par exemple, une conscience de soi, c'est-à-dire quand je suis conscient de moi, ça ne veut pas forcément dire que je suis libre et autonome. Pour que je me sente vraiment libre et autonome, il faut que je sois capable de prendre des décisions par rapport à une règle que je me donne à moi-même. Il faut que j'apprenne à me respecter, et se respecter soi-même, c'est respecter ce que, par exemple, les parents voient en moi. Et donc, il faut cette dimension relationnelle pour vraiment devenir libre et autonome. Et donc, l'identité en tant que être individu conscient de soi n'implique pas forcément l'autonomie. Il faut pour cela que la personne devienne vraiment une personne capable de se décider par elle-même, c'est-à-dire libre et autonome. Et donc, Kant affirme l'impératif d'agir en sorte que la personne, que ce soit en moi ou en l'autre, la personne humaine, soit toujours considérée comme une fin et jamais comme simplement un moyen. C'est-à-dire que la personne doit être respectée, que cette personne soit celle qui est en moi ou que cette personne soit celle qui est en autrui. Il faut que cette personne soit respectée. Il y a une valeur absolue de la personne qui fait que cette personne va être respectée comme une fin en soi, et jamais simplement comme un moyen. Et c'est de là que découle ce qu'on appelle les droits de l'homme, dont parlait le père Rouchy en introduction de cette soirée. cette personne humaine qui est toujours une fin en soi, qui a une valeur absolue. Cette personne qui est toujours libre et dont les droits doivent toujours être respectés. Et je cite par exemple Kant qui dit « La personne est un être qui a des droits dont il peut devenir conscient. » Vous voyez, on retrouve vraiment, là je pense à l'article 3 des droits de l'homme de 1789, « Tout individu a droit à la liberté de sa personne. » Tout individu a droit à la liberté de sa personne. Et chez Kant, donc, il y a cette distinction entre la personne douée de liberté et la personne simplement consciente d'elle-même. La simple conscience de soi ne suffit pas pour accéder à la liberté. Il faut passer par, notamment chez Kant, il passe par l'amour, et notamment l'amour divin. Et là-dessus, donc, Kant distingue entre la religion théorique révélée et la religion, ce qu'il appelle religion pratico-morale. Alors c'est quoi ? La religion pratico-morale est une religion accessible à toute personne, y compris les personnes qui ne sont pas croyantes. La religion pratico-morale s'appuie sur justement cette loi morale, cette capacité de la personne à vraiment aller jusqu'au bout de ses devoirs et à être capable de suivre, de coller à la loi morale qu'elle se donne à elle-même. Il y a donc de ce fait une sorte de, on va dire, d'hérésie, enfin ça peut être qualifié d'hérésie chez Kant, parce que d'un côté il y a la religion théorique révélée, c'est-à-dire la religion habituelle, enfin telle qu'on la conçoit, et de l'autre côté il y a la religion de tout le monde, accessible à tout le monde. Et on retrouve un peu cette idée-là dans le chapitre premier de la lettre aux Romains. Je ne sais pas si vous avez en tête cette introduction que Paul donne à l'idée, à sa théologie de l'être humain qui a besoin de l'aide de Dieu, qui a besoin du salut de Dieu, qui aboutit à cette conclusion au chapitre 3, comme quoi tous ont péché et ne sont pas dignes de la gloire de Dieu. Mais au chapitre 1, il y a cette idée que tout être humain est capable d'entendre la loi divine, la loi, ce que on entend par loi morale chez Kant. Vous savez, donc, normalement, tout être humain, même non-croyant, pourrait accéder à cette religion pratico-morale. Et donc, chez Kant, cette religion pratico-morale qui donc fait naître en nous la personne relationnelle, cette religion s'appuie sur l'amour relationnel divin. Et il redéfinit la Trinité comme une relation entre l'être aimé, entre l'être qui aime, et l'amour de celui qui aime, qui s'adresse à l'être aimé. C'est repris ensuite par Schelling, un des disciples de Kant, et beaucoup plus explicité. Bon, j'arrête là avec Kant, je ne sais pas, juste peut-être deux mots par rapport à Fichte. Fichte, donc un des disciples de Kant, étant le respect de soi kantien, vous savez, donc ce respect de soi qui fait que je découvre en moi qui je suis, quelle est cette personne morale capable de devoir, enfin d'aller jusqu'au bout de ce qui est attendu d'elle. Eh bien, Fichte étend ce respect de soi kantien à la reconnaissance universelle de l'humain. C'est-à-dire que quand je me respecte, quand je suis respecté, eh bien, je constate que je suis un être humain comme tous les êtres humains. Voilà, donc c'est la dimension universelle de la reconnaissance, mais Hegel va dire que ce n'est pas suffisant, parce que je suis un être humain, mais j'ai aussi des singularités, des particularités. Je ne suis pas comme le père Tanios, je ne suis pas comme le père Rouchy, je suis moi. Et comment est-ce que je pourrais être reconnu comme moi? Et donc Hegel va dire, il faut vraiment que cette reconnaissance universelle soit étendue à la singularité personnelle. Il faut que la reconnaissance s'adresse à chaque personne, personnellement, en tant qu'individu. Et donc la logique de la reconnaissance revient beaucoup aujourd'hui au XXe siècle dans certaines spiritualités. On retrouve la spiritualité de la reconnaissance dans la plupart des spiritualités. Par exemple, quand on cherche une réalisation de soi, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche à être reconnu. Quand on essaie d'accomplir des exercices spirituels pour se découvrir soi-même ou pour mieux découvrir Dieu, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche à être reconnu par Dieu, on cherche à être reconnu par les autres membres de la communauté. Donc, importance de la reconnaissance qui, donc, chez Hegel, part de cette importance aussi du respect de soi, de la personne relationnelle. On est toujours dans la reconnaissance qui vient de la relation à l'autre, dans la relation avec un interlocuteur. Et enfin, permettez-moi de parler un peu de Paul Ricoeur. Je cite « L'importance culturelle immense de la pensée trinitaire dans la constitution de la notion occidentale de la personne » est quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question. Donc Paul Ricoeur reconnaît l'importance du dogme trinitaire dans la constitution de la notion occidentale de la personne. C'est pour lui quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Et donc pour lui, cette notion occidentale de la personne qui résulte de la Trinité, enfin du dogme de la Trinité, qui résulte de ce que on a entendu tout à l'heure par rapport à l'hypostasis, eh bien c'est la notion substantialiste de la personne. Et donc, comme Kant, il va compléter cette notion substantialiste par la notion relationnelle. Et pour lui, je cite, le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si je veux découvrir qui je suis, on n'est plus dans le « je pense, donc je suis » de Descartes, on est dans l'intersubjectivité. Si je veux découvrir qui je suis, eh bien le plus court chemin passe par autrui. Par exemple les parents, par exemple le prêtre, par exemple Monseigneur de Guy de Kerimel, par exemple peut-être le pasteur, on ne sait jamais. En tout cas, pour me découvrir tel que je suis ou qui je suis, pour apprendre à me respecter moi-même, il faut que je passe par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va me dire qui je suis. Et les premiers qui m'ont dit que je m'appelle Mino, c'était mes parents. Dès que j'ai commencé à ouvrir les yeux, ma mère me disait Mino. Vous voyez, pour me découvrir moi-même, je passe par autrui. C'est le plus court chemin, dit Paul Ricoeur. Et en même temps, il complète en disant « Pour avoir en face de soi un autre que soi, il faut avoir un soi. » C'est-à-dire quand j'ai ouvert mes yeux et que j'ai vu le visage, la personne de ma mère, pour voir ce visage, il fallait déjà que j'ai un soi, que je sois moi, que je sois une personne qui voit, une personne qui découvre le beau visage de ma mère. Voilà, le soi se conçoit par la relation à l'autre et non par la substantialité. En tout cas, premièrement par la relation à l'autre et peut-être ensuite par la substantialité, c'est-à-dire par la dimension psychologique, la dimension de la conscience de soi. Le protestantisme luthéro-réformé, aujourd'hui, est plutôt dans cette optique de la personne en tant que relation. On insiste beaucoup sur la collégialité, le dialogue, le fait de cheminer ensemble. On ne réfléchit pas tout seul dans son coin, on préfère en parler avec d'autres, quitte à prendre plus de temps, laisser le temps au temps, mais réfléchir avec les autres, peut-être parfois s'égarer, mais ensemble avec d'autres, si on s'égare, peut-être que finalement on retrouvera le bon chemin. Cette confiance dans la relation à l'autre, c'est ce qui prévaut aujourd'hui dans le protestantisme réformé. Merci de votre attention.
Merci au pasteur, au père Rouchi. Donc, je me présente, je suis Abou Nathanios. Abouna, dans ma langue maternelle, c'est notre père. C'est pas mon père. C'est pour une dimension un peu communautaire. Tanios, c'est Antonios, c'est Antoine. Donc, je suis Libanais, Maronite, l'église Maronite qui se réclame d'un Saint-Maroun, 4e siècle. Avant de commencer, donc, je vous raconte une petite anecdote. Lors du concile de Nicée, un évêque maronite, qui était un peu fatigué des débats qui sont sans fin sur la nature du Christ, se lève et dit « Monsieur, messieurs, je crois que la solution à tous nos désaccords se trouve dans un plat libanais, un bon taboulé. C'est pas ce que vous trouvez dans les supermarchés ici, car ça n'a rien à voir, c'est pas de couscous, avec tout mon respect. » C'est du persil. Donc, un autre évêque intrigué lui demande « Mais qu'est-ce que c'est le taboulé à voir avec la Trinité ?» L'évêque maronite répond « Eh bien, imaginez, le persil, c'est l'humanité, les tomates, c'est la divinité, et le citron, c'est l'Esprit Saint. Tout se mélange parfaitement, et pourtant chaque ingrédient garde sa propre valeur, sa propre saveur. Si nous pouvons faire cela avec notre taboulé, je suis sûr qu'on peut trouver une solution pour la nature du Christ. » Le pape, qui était un peu déconcentré, alors disait, « Vous les maronites, vous pouvez toujours trouver des solutions à tous les problèmes extérieurs autour d'un bon taboulé, sauf à vos propres problèmes. » Je vous signale qu'on est oriental, mais j'espère qu'on n'est pas désorienté. Donc, pour revenir à notre sujet, les maronites ont exclusivement adopté le credo de Nicée-Constantinople qui était utilisé uniquement dans leur liturgie. Donc, ce credo constituait une déclaration de foi essentielle, réaffirmant la doctrine trinitaire et christologique de l'Église universelle. Il était récité pendant la messe, immédiatement après l'homélie, marquant un moment solennel où l'Assemblée proclamait collectivement sa foi. De plus, il a été répété 7 fois par jour, donc chaque jour, les moines et même les fidèles, ils répétaient le credo 7 fois avant les offices. Car c'était pas seulement les moines et les prêtres qui disaient les prières donc du jour, c'est aussi le peuple aussi, donc les fidèles aussi. Donc ceci souligne le rôle central de ce credo dans la vie spirituelle et la prière quotidienne des fidèles maronites. Donc comme a dit Père Rouchi, l'église maronite c'est la seule église orientale qui a resté fidèle à Rome, au pape de Rome. Donc il n'y a pas des maronites catholiques, des maronites orthodoxes. On est 100% catholique, je vous assure. Donc, car d'autres églises, donc comme les Grecs catholiques, donc Syriaques catholiques, donc ils étaient une fois avec Rome, une fois ils ont été séparés de Rome. Donc, mais nous, on était infidèles. Par ailleurs, ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que des formes alternatives du credo, telles que le symbole des apôtres, ont commencé à apparaître dans l'église maronite. Ils étaient introduits par des figures éminentes de l'époque, comme As-Sam'ani. As-Sam'ani, c'était un maronite qui s'occupait de la librairie du Vatican. Mais cette introduction résultait d'une volonté de répondre aux influences liturgiques qui sont venues d'Occident, et certains manuscrits, tels que le Vatican syrien 290, en témoigne clairement. Vous savez que un peu l'église maronite, elle était latinisée, avec donc l'arrivée des croisades, avec donc l'arrivée des capucins, des jésuites. Donc on était un peu, on est imprégné par la liturgie latine. Par ailleurs, la seule anaphore maronite d'origine syriaque orientale, connue sous le nom de Charar, conserve une caractéristique unique. Elle intègre le credo directement dans sa structure. Donc, les anaphores, c'est quoi? Donc, dans notre messe maronite, donc il y a les deux parties comme les messes, mais la deuxième partie c'est l'anaphore, qui vient du mot grec anaphora, qui signifie élévation ou offrande. Donc le terme anaphore désigne une prière eucharistique ou une prière d'action de grâce. Donc toujours dans la deuxième partie de la messe, donc je dis, on prend ce jour, mais il y a, comment dire, des conditions, donc une loi, donc il dit, ce jour-là, on prend l'anaphore des apôtres, l'anaphore, donc il y a une certaine règle à ça. Les anaphores qui sont écrits, donc ils sont comme des figures qui sont importantes, comme Saint Jean Chrysostome, comme Saint Basile, Saint Pierre d'Alexandrie, qui étaient des figures majeures dans le développement des prières eucharistiques. Mais cet anaphore, donc qui est très célèbre, qui a pris le nom de Charar, donc il contient dans sa structure le credo de Nicée. Charar, donc l'anaphore s'appelle Charar Mor, signifiant Seigneur, affermis-nous dans ce credo. Seigneur, affermis-nous dans ce credo. Donc cette insertion montre non seulement l'importance doctrinale du credo de Nicée dans la tradition maronite, mais aussi son rôle spirituel comme fondement de la foi et de l'engagement liturgique du prêtre et de l'assemblée. Durant les périodes de persécution, le credo de Nicée constituait la seule forme de catéchisme accessible aux fidèles maronites. Donc avec les arrivées des Mamelouks, donc de la péninsule, les musulmans de la péninsule arabe, donc c'était la seule catéchèse qui est accessible aux fidèles maronites. Donc les maronites, ils les répétaient fréquemment, donc cela leur permettait de conserver les fondements de leur foi et de le transmettre leur héritage religieux dans des circonstances difficiles. Cette préservation et cette répétition du credo de Nicée dans la liturgie maronite témoignent d'une fidélité à l'héritage apostolique et patristique de l'Église orientale, malgré les influences extérieures qui ont pu marquer l'évolution liturgique au fil des siècles. Donc je prends maintenant les maronites et le filioque. Le premier concile local, donc on avait un concile local maronite, convoqué par le patriarche Mkhayil Rizé à Kanobin. À Kanobin, c'est la vallée sainte, donc où les moines maronites qui se sont réfugiés dans les grottes, car il y avait les persécutions. Donc ces moines ont dit qu'ils ont écrit la liturgie maronite avec leur sang, avec le sang de martyrs. Donc le patriarche Mkhayil Rizé, il a convoqué un concile à Wadi Kanobin, la vallée sainte, en 1580, ce concile qui marque un tournant décisif dans l'intégration des enseignements du concile de Trente au sein de l'église maronite. En présence des envoyés pontificaux, Eliano et Bruno, ce concile adopta une série de décisions réparties en 10 chapitres, parmi lesquelles l'ajout du filioque au credo de Nicée-Constantinople. Ce chapitre sur la foi réaffirme l'adhésion des maronites à la doctrine romaine en adoptant l'expression « et du fils » filioque, pour clarifier la procession de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Les pères conciliaires décrétèrent que ce credo, incluant le filioque, devait être récité dans toutes les églises maronites les dimanches et jours de fête, renforçant ainsi l'unité doctrinale avec Rome. Le patriarche Adwaihi, donc on a assisté à sa béatification en août dernier au Liban, qui est un grand défenseur de cette réforme, s'appuya sur des références liturgiques maronites pour justifier l'ajout du filioque. Dans son œuvre, qui est très très célèbre, le Candélabre, il se réfère à l'exaltation de l'épiclèse de l'anaphore de Saint Sixte, utilisée dans la liturgie maronite, pour appuyer son point de vue. Cette exaltation, qui évoque le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils, sert d'argument théologique et liturgique en faveur de l'intégration du filioque. Pour Adwaihi, le patriarche, cette expression reflète non seulement la fidélité des maronites à leur propre tradition liturgique, mais aussi leur unité avec l'Église universelle. Toutefois, on ne cache rien, l'introduction de filioque suscita des débats et des contestations au sein de certains milieux maronites qui ne l'ont pas accepté, qui sont inquiets des influences latinisantes sur leur tradition orientale. Cette controverse fut en partie apaisée lors du concile de Deir Moussa, donc c'est une région, Deir Moussa, qui rectifia certaines formulations et précisa l'usage du filioque dans le credo, en veillant à respecter l'héritage théologique et liturgique syriaque de l'Église maronite. Ce concile permit de réconcilier les différentes sensibilités et d'affermir l'identité maronite dans sa double fidélité à Rome et à ses racines orientales. Je vous parle maintenant, je passe à la variation syriaque. Il y a une variation syriaque du credo de Nicée. Donc je vous dis quelques exemples. La version syriaque, la langue syriaque, c'est la langue fille de l'araméen, la langue de Jésus, donc c'est la langue un peu parlée. Dans la liturgie, dans cette variation syriaque, donc on commence par l'expression nous croyons, nheiminen, nous croyons, car ici dans le credo vous dites je crois, donc dans la tradition occidentale. Donc, cette formulation au pluriel met en avant le rôle central de la communauté dans la foi. Elle souligne que la foi n'est pas uniquement une démarche individuelle, mais bien une profession commune partagée par l'ensemble de l'assemblée. Cela reflète l'approche chrétienne ancienne, où l'Église est perçue comme un corps unique de croyants, unis dans la même confession de foi. Cette expression communautaire renforce également l'importance de la vie liturgique collective dans la tradition maronite. Un autre trait distinctif du texte syriaque est l'insistance sur la passion du Christ. Le Fils, donc je cite, « Le Fils qui a souffert et mort a été enseveli et est ressuscité. » Cette précision accorde une attention particulière au mystère pascal, cœur de la foi chrétienne, rappelant que la souffrance et la résurrection du Christ sont au centre de la rédemption de l'humanité. De plus, le credo syriaque souligne le rôle du Saint-Esprit, car vous savez, dans les églises orientales, on souligne beaucoup la présence et l'importance du Saint-Esprit dans notre foi. Donc, on dit l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes et les apôtres, mettant ainsi en lumière la continuité de la révélation divine à travers l'histoire du salut de l'Ancien au Nouveau Testament. Enfin, le credo se termine par une prière pour la nouvelle vie dans l'au-delà, exprimant l'espérance chrétienne en la résurrection des morts et la vie éternelle. Cette demande explicite pour la vie future reflète une dimension eschatologique forte, typique de la spiritualité syriaque, qui ne cesse de rappeler aux fidèles leur destinée ultime, la participation à la vie divine dans le royaume de Dieu. Ainsi, la variation syriaque du Credo de Nicée, tout en restant fidèle à la doctrine universelle de l'Église, porte une empreinte propre, soulignant la communion, la mémoire du mystère pascal et l'espérance eschatologique. Je termine par, pour rester dans le temps, pour que Père Rouchy soit content de moi. Donc, à la suite du concile de Nicée, comme les Ariens qui ne reconnaissent pas la consubstantialité du Père, du Fils avec le Père, ils ont été déclarés hérétiques, ils ont été progressivement exclus du cadre officiel du christianisme, marquant une séparation importante. Mais ces églises ont continué à exister de manière isolée ou dans des régions éloignées de l'Empire romain. Donc, les Nestoriens, qui ont été condamnés par le concile d'Éphèse en 431, et ont formé l'Église assyrienne de l'Orient. Donc, après le concile d'Éphèse en 431, donc il y avait la naissance de l'Église orientale assyrienne. Et plus tard, les monophysites, qui ont rejeté les décisions du concile de Chalcédoine en 451, donc il y a eu aussi la séparation et la naissance donc des églises, comme les églises coptes, les églises syriennes, arméniennes et éthiopiennes, qui se sont séparées des églises en communion avec Rome et Constantinople. Merci.
Mais bravo, bravo Père Tanios d'avoir tenu le timing. Vous voyez, ce sont les Occidentaux qui sont plus bavards, c'est très bien. Bon, merci beaucoup aussi à la magnifique illustration philosophique que nous a donnée le pasteur Minot. Donc, si vous avez un sanglier sur le feu ou école demain matin, vous pouvez partir enrichi donc, par ces informations. Si vous avez encore un petit peu de force, on peut prendre le temps de questions dont Madame Françoise Lettel, que je présente à ceux qui ne la connaîtraient pas, qui est notre dévouée secrétaire du comité interconfessionnel, qui a beaucoup de mérite avec nous. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez rédiger une ou l'autre question. Et nous essaierons même de les prendre en compte. Voilà. Encore un petit quart d'heure, si vous voulez, pour ne pas trop dépasser 22 heures.